Je voudrais ce matin continuer un petit peu, on va prier et on va continuer notre réflexion sur la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, dans ton Église. Merci parce que même si nous ne le réalisons pas toujours, tu agis, tu te manifestes et nous voulons apprécier, nous voulons aussi savoir nous arrêter. Comme dit ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous voulons savoir contempler tes œuvres, contempler tes merveilles et compter les bienfaits de Dieu. Alléluia, et te dire merci notre Père. Merci aussi pour peut-être les bien-aimés qui ne peuvent être là ce matin à cause de difficultés personnelles. Bénis-les Seigneur notre Dieu. Je te prie aussi pour que tu bénisses cette prédication, cette parole de ta part, Seigneur, et que ton Église soit encore édifiée en ce jour et dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais continuer un petit peu la réflexion. Ce matin, je crois que j'ai reçu une parole de Dieu que je vous apporterai dans les jours à venir. Mais ce matin, j'ai à cœur de continuer, de conclure, si vous voulez, dans cette pensée de ce mois de mars sur le service de Dieu, qui avait été commencé par un petit peu notre frère David. Donc, sur servir le Seigneur. Qu'est-ce que servir le Seigneur ? Servir le Seigneur, c'est servir Dieu, mais c'est aussi servir nos frères et sœurs. En aucun cas, c'est se servir soi-même. Ce n'est pas pour nous que nous servons le Seigneur. Même si je crois qu'il y a une certaine forme d'épanouissement, bien entendu, quand on sert le Seigneur et qu'on fait les œuvres de Dieu, qu'on est au cœur de la volonté de Dieu, il y a une certaine reconnaissance intérieure, un certain même bien-être, sentiment de satisfaction d'avoir bien fait. Maintenant, on a vu la semaine dernière que servir le Seigneur, pour servir le Seigneur sous l'onction, il y a des principes de base, des choses fondamentales. Par exemple, on a vu qu'il fallait être converti. L'apôtre Paul dira, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc on ne peut pas servir le Seigneur si on n'est pas converti. On fera peut-être des œuvres morales, des œuvres bonnes. Je ne critique pas, évidemment, loin de moi. On pourra peut-être servir au resto du cœur. On pourra faire des tas de choses. Mais si ce n'est pas le résultat de l'œuvre de Dieu en nous, Dieu œuvre en nous et au travers de nous, ça sera bien, sans doute, mais ça ne sera pas les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu se réalise avec des gens qui sont convertis, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et ça commence par là. Maintenant, la conversion, on a vu aussi qu'elle nécessitait, le service nécessitait une communion, une bonne communion avec Dieu. Car on peut servir et s'essouffler, se fatiguer, servir à contre-cœur. Avec un esprit de contrainte. Ah, il faut faire. Mais parce que notre communion avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle est, eh bien notre cœur n'est pas à l'ouvrage. Et par conséquent, tout ce que nous faisons est une charge. Ça a un caractère obligatoire. Et on n'est pas épanoui dans ce que l'on fait, un peu comme Marthe, qui était frustrée, qui n'était pas contente, qui était irritée même, alors que le Seigneur était là. Et Marie, elle, était dans de bonnes dispositions. Et ce qui fait qu'on est dans de bonnes dispositions pour servir, c'est notre relation, notre communion avec Dieu. Vous pouvez dire amen à cela. Et puis on a vu également l'importance d'être consacré à Dieu quand on veut servir le Seigneur. Je lisais ce verset ces dernières heures dans Philippiens 2, verset 22. « Vous savez qu'il a été mis, en parlant de Timothée, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. » Philippiens 2, 22, comme un enfant avec son père. Le service est indissociable de la consécration. Je ne peux pas prétendre servir Dieu sous l'onction si je ne suis pas consacré. Consacré comme l'était Timothée avec l'apôtre Paul, auprès de l'apôtre Paul, comme un enfant avec son papa, avec son père. Et c'est bon d'avoir dans l'Église, alléluia, des pères et des fils tout entiers au Seigneur, consacrés au service de l'Évangile. Amen. Je lisais cette anecdote qui avait été apportée par Thomas Bress, qui est tirée d'une légende japonaise. Une légende japonaise raconte qu'en arrivant au ciel, un pieux moine bouddhiste aperçut avec étonnement d'immenses tables où étaient entassées des quantités innombrables d'oreilles et de langues humaines. À ses interrogations, il fut répondu que toutes ces oreilles et ces langues avaient appartenu à des gens qui avaient toujours écouté avec plaisir la prédication et aimaient faire de pieux discours, mais qui n'avaient jamais mis en pratique dans leur vie ce qu'ils avaient entendu et répété. Aussi, le reste de leur corps était-il en enfer. Seules leurs langues et leurs oreilles avaient été portées au ciel. Vous savez, Jésus disait, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Dieu nous a créés, il nous a recréés en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a pour chacun d'entre nous, il a prévu des œuvres à l'avance afin, nous dit la parole de Dieu, que nous les pratiquions. Alléluia. Alors, j'aimerais, pour aller plus loin ce matin avec vous, je vais essayer d'être un peu plus court. J'aimerais voir avec vous, après avoir vu quelques principes de base pour servir le Seigneur sous l'onction, j'aimerais voir avec vous les qualités d'un serviteur de Dieu. Ou plus exactement, les qualités d'un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Vous savez, quand on sert Dieu véritablement, la Bible dit dans le livre de Malachie, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre le croyant et l'incroyant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Vous verrez la différence. Celle-ci sera évidente, elle sera révélée entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et j'aimerais voir avec vous deux, peut-être, qualités. Je ne pense pas que je pourrais aller trop loin ce matin, mais je crois que la première des qualités d'un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans l'humilité et dans la simplicité de la foi. L'humilité est la marque numéro une d'un vrai serviteur du Seigneur. Camille a lu, dans le cadre de l'introduction de la Sainte-Seine, ce verset qui parle de Jésus, qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, d'un simple homme. Jésus est bien sûr notre modèle par excellence. Il est né, notre Seigneur, comme un petit enfant dans une crèche à Bethléem. Il était humble, il le dira lui-même, « Je suis doux et humble de cœur ». Mais je crois que ce caractère de l'humilité, c'est quelque chose qui doit nous habiter, nous animer, nous caractériser tous si nous voulons être des véritables serviteurs du Seigneur. Amen. Alors, l'apôtre Paul qui, avant de rencontrer Jésus, Saul de Tarse qui était un homme vigoureux, un leader, un homme qui menait la vie dure à son entourage. Vous voyez, quand il va se convertir, il va être vraiment, je crois, brisé par le maître, brisé par le Seigneur, son nom va changer. Son nom va devenir Paul. Et Paul, ça veut dire petit. Quand tu étais petit à tes yeux, N'es-tu pas devenu le chef de mon peuple ?» dira Samuel à Saül. Paul a servi le Seigneur avec humilité toute sa vie. Toute sa vie. Je crois que c'est possible de ne pas se prendre la tête. Je crois que c'est possible de rester simple, de rester humble, petit à nos yeux. Je crois que c'est indispensable. Vous savez, je pense que Dieu déteste l'orgueil. Pourquoi ? Parce que l'orgueil vient de Satan. L'orgueil vient de Satan qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, qui a voulu occuper une place qui n'était pas la sienne. Et l'orgueil, c'est un vice, c'est moche, c'est, pardonnez-moi, c'est diabolique. Et Paul dira, donc, en ce qui le concerne, il va réunir un groupe de personnes, il avait constitué l'église d'Éphèse, et là il va révéler un petit peu son cœur. On voit cela dans Actes 20, verset 18. Il est dit ceci, Actes 20, 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, Paul donc va, c'est le discours aux anciens d'Éphèse, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Servant le Seigneur en toute humilité. Voilà la prétention de Paul, même si ce n'est pas très approprié ce que je suis en train de dire, mais voilà ce que l'apôtre Paul va dire. J'ai servi le Seigneur avec humilité au milieu de vous. En toute humilité et avec larmes, mais au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Et quand je regarde la vie de l'apôtre Paul, on peut dire amen, parce que Paul a vécu dans l'humilité. Par exemple, Paul ne cherchait jamais à se mettre en avant. Dans ses prédications, Paul ne cherchait pas à se faire connaître, à parler de lui. J'ai parfois entendu des prédicateurs qui prêchaient super bien. Mais un jour, ça m'a tellement saoulé que j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à compter le nombre de fois où le pasteur disait « moi, je ». C'était hallucinant. De ma vie, je n'avais jamais entendu ça. « Moi, je, moi, je, moi, je ». Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Et Paul dira « nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons ». Paul ne cherchait pas à se mettre en avant, à épater la galerie, à se faire briller, à se faire valoir. Paul n'était pas carencé, il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il savait qui il était, il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Et quand bien même il avait du succès, parce que Paul avait un ministère d'impact, de succès, on a parfois un jour voulu lui offrir même un sacrifice quand il y a eu une guérison, mais l'Écriture dit qu'il est descendu là, il a déchiré ses vêtements, mais il a dit « je suis rien moi, c'est Jésus qui est tout, c'est Jésus qui guérit, alléluia !» Et la parole de Dieu nous dit que Paul, en fait, est toujours resté humble. Il ne s'est jamais attribué la gloire. Vous savez, comment on voit quelqu'un de humble ? C'est quelqu'un qui, quand il réussit un petit peu, ne se laisse pas griser par le succès. Ce n'est pas parce qu'on a 500, 1000, 2000, 10 000, 15 000, 60 000 vues qu'on va faire la différence. Ce qui compte, c'est que ce soit le Seigneur qui soit vu et qui nous connaisse. J'aime Esther. Enfin, comprenez-moi. La reine Esther. Une fois au trône Esther, elle n'était pas belle qu'à l'extérieur. Elle avait aussi un beau cœur. Elle avait aussi un cœur selon Dieu. Vous voyez, quand elle était sous la tutelle de Mardochée, elle lui était très soumise. Elle était à l'écoute. Il avait remplacé son cousin, un homme de Dieu, avait remplacé son papa naturel et il l'avait éduqué. Mais lorsque cette Esther a eu accès à des privilèges, a eu accès au palais, est devenue reine d'une nation même et plus d'un territoire immense, le plus grand de l'époque, J'ai aimé ce que l'Écriture dit, Esther devint. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Sa réussite n'avait pas changé son cœur. Elle continuait à rester humble et fidèle à son petit Mardochée. Amen. Je crois que quand on est humble, on ne cherche pas à jouer des coudes pour réussir à tout prix, pour avoir un succès qui va faire parler de nous. Voyez, je ne crois pas que les sentiments de Paul étaient de se faire une place même dans le royaume. Je crois que Paul voulait servir le Seigneur, bien sûr, efficacement, mais la réussite et le succès n'étaient pas sa première vision des choses. Lui, il était appelé à servir, et le résultat appartenait au Seigneur. À la différence, par exemple, des ambitieux de Jacques et Jean, qui, à un moment donné, avec beaucoup de toupet et d'ambition personnelle, vont aller voir le Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la gloire, ils veulent la reconnaissance, ils veulent le prestige. Eh bien ça, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un a dit « La grandeur ne réside pas dans notre position, mais dans le nombre de gens que nous servons. » Paul n'était pas en compétition non plus avec les autres. Je crois que nous devons être en compétition avec nous-mêmes. Que nos progrès soient évidents pour tous, que l'on progresse, que l'on s'approfondisse. Vous savez, la Bible dit qu'il faut creuser une fois, creuser deux fois, et trois fois profondément, que nous puissions nous développer, oui, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à notre point de départ personnel. Paul n'était donc pas en compétition avec Apollos, avec ses compagnons. Je pense que pour l'apôtre Paul, ce n'était pas un souci de partager même le ministère avec des plus jeunes, avec des plus anciens, parce qu'il était bien dans ses baskets. Quand on commence à être en compétition avec un tel ou un tel et qu'on se sent mal à l'aise, eh bien, on devient finalement, on perd quelque chose. Voyez, ça me fait penser à Saül qui a été jaloux à un moment donné du jeune David parce que les femmes chantaient « David a tué ses mille, Saül a tué ses mille et David ses 10 000 ». Et il n'était pas content. Parce qu'il, au lieu de se réjouir d'avoir auprès de lui un homme de qualité, un homme d'onction, il en a pris son parti et il en a fait son ennemi. Quand on est humble, on accepte de se réjouir de l'œuvre de Dieu, qui se fait même lorsque celle-ci ne se fait pas au travers de nous. L'apôtre Paul avait des compagnons. Il leur écrivait, il les félicitait. Paul a eu jusqu'à 43 compagnons. Deux services. Paul ne servait pas tout seul. Il était accompagné et il se réjouissait de cela. Paul également, un autre aspect de son humilité, c'est qu'il acceptait parfois de prendre... Vous savez, quand on a l'appel, il faut aussi avoir le balai. Certains, parfois, sont surqualifiés pour faire certaines choses dans leur tête. Mais vous voyez, pensez à David, le tueur de géants. Il avait reçu une onction royale. Son papa va lui confier la mission d'apporter des victuailles, du fromage à ses frères sur le champ de bataille. Il va y aller. Il va y aller humblement. Il ne va pas rechigner, il va dire... Pas de souci, il va se lever de bon matin, il va aller, il va apporter le fromage à ses frères, un bon fromager, et pourtant il était roi. mais il était humble, comme son Seigneur. Paul a mis la main à la pâte, lui, le faiseur de miracles, l'enseignant, le prédicateur d'onction. Il a su, à certains moments, même reprendre du travail, une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il y était contraint, parce qu'à certains endroits, la générosité manquait, quand d'autres donnaient abondamment. Je crois que c'est ça que Dieu attend de chacun et chacune d'entre nous, un cœur de serviteur. Si nous étions ou si nous sommes tous humbles dans le service, ça sera beaucoup plus facile. Voyez, parfois, pas ici, hein, mais comme je bouge, là je vais aller en Belgique, peut-être je vais le dire en Belgique, je ne sais pas, mais parfois, une fois quelqu'un a un poste de responsabilité, on oublie pourquoi on l'a. Et quand on nous donne un conseil, que notre hiérarchie, notre pasteur ou d'autres parfois, nous donnent un conseil en nous disant « tu devrais faire comme ceci, comme cela », c'est difficile. C'est difficile de recevoir un petit, je ne sais pas comment dire, une petite exhortation fraternelle pour faire différemment. Oui, mais moi, le Seigneur ne me l'a pas dit, frère. Mais le Seigneur peut parler au travers de ton pasteur. Hein. Quand on est humble, c'est plus facile d'accepter, oui, les remontrances, d'accepter que ce qu'on fait n'est peut-être pas la bonne façon de faire. J'aime ce psaume 141, verset 5. Même dans des psaumes de prière, il y a des belles prédications. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Savez-vous que si vous êtes en mesure et assez humble pour recevoir le conseil de votre autorité spirituelle, votre onction sera renouvelée et va augmenter et grandir. Alléluia. Mais quand on ne sait plus écouter les avis, les conseils, même de ceux qui sont légitimes pour nous les transmettre et nous les donner, eh bien, je crois qu'on est en danger. C.S. Lewis disait « L'orgueil est un cancer spirituel. Il détruit toute aptitude à l'amour, au contentement et au simple bon sens. » Le livre des Proverbes dira, chapitre 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » C'est que le Seigneur nous donne de servir avec des sentiments d'humilité. Et quand on a des choses à nous dire, eh bien que les gens, qu'on ne fasse pas preuve de susceptibilité, parce qu'on ne peut plus rien nous dire, on ne peut plus rien nous adresser, c'est compliqué. Mais la susceptibilité a parfois des racines d'orgueil. Et il faut les traiter et demander au Seigneur de nous en délivrer. Alléluia! Ça va, je peux continuer? Je ne vais pas être trop long, trop lourd. La prochaine fois, je vous donnerai un message plus différent. Mais vous savez, je crois que ces messages-là, ils sont très importants. J'ai un autre message d'encouragement et tout cela, mais je crois que notre Église a besoin d'apprendre à servir le Maître. Tu as besoin de laisser la parole de Dieu te travailler de plus en plus pour servir avec humilité. Et une deuxième qualité, c'est la qualité de la persévérance. De la persévérance. Un serviteur de Dieu, pardonnez-moi l'expression, c'est comme un bœuf. La Bible dit qu'on ne peut pas associer l'âne et le bœuf. L'âne, il est têtu, parfois il ne veut pas avancer. Un serviteur de Dieu, c'est comme un bœuf. Il est prêt à accepter le joug et à travailler pour le Seigneur dans le champ et dans la moisson. D'ailleurs, le mot serviteur, quand il est dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur, en grec, c'est le mot doulos. Ce mot signifie douleur. Douleur, esclave. Quand Jésus s'est abaissé et qu'il a lavé les pieds de ses disciples, c'était les serviteurs de la maison qui faisaient cela. C'était le doulos, c'était l'esclave. Et lui, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, s'est abaissé avec humilité devant ses disciples, y compris Judas, pour lui faire et leur faire du bien. La notion de persévérance, de bravoure, de fidélité, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, pour entendre cette phrase un jour de la part du maître, nécessitera nécessairement de notre part que l'on serve avec persévérance, parce que servir le Seigneur, c'est pas facile. Servir le Seigneur, quand on sert Dieu, l'apôtre Paul dira « nous travaillons et nous combattons ». Servir le Seigneur, servir dans l'Église, c'est un combat. Ce n'est pas simplement comme dans le monde. Il y a un vrai enjeu spirituel. Combien de fois les gens me disent « Pasteur, je voulais venir à l'Église, mais je n'ai pas pu, etc. » Pour certains, ça a été la maladie ou autre chose, des problèmes familiaux, que sais-je, parce qu'il y a des enjeux. Et surtout, quand on doit monter sur l'estrade, on doit faire l'œuvre de Dieu, il y a toujours des luttes, des combats, et on doit faire preuve de ténacité, de persévérance, de détermination. Le mot persévérance, c'est être sévère avec sa personne, ça vient d'un mot latin, doulos, être exigeant avec soi-même. Il faut accepter que quand on sert le Seigneur, il y a des souffrances. Quand l'apôtre Paul se présente, s'est présenté comme un homme humble, et quand il dira aux Corinthiens, voilà, je me suis rendu recommandable au milieu de vous comme un ministre, un serviteur, et la première des qualités qu'il va mentionner comme quelque chose d'important, ce n'est pas les miracles, les délivrances, les guérisons, ces prédications, c'est la patience. Il s'est rendu recommandable comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience. Et croyez-moi, mes amis, dans l'œuvre de Dieu, quand on fait l'œuvre du Seigneur, il nous faut avoir ce fruit de la patience. Il nous faut posséder cette endurance qui fait que parfois on doit demander à Dieu toute son aide et toute sa grâce. Amen. J'aime le témoignage de Daniel, du roi Daniel, qui a servi le Seigneur avec persévérance. Daniel n'était pas un pasteur, il n'était pas dans la Nouvelle Alliance, c'était un prophète à Babylone. Et Daniel, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, Daniel s'est retrouvé dans une situation, il s'est retrouvé coincé. Daniel était quelqu'un de consciencieux, qui faisait bien son travail. Et les jaloux autour de lui, les intrigants, ont essayé de le coincer, mais comme il était fidèle dans toutes les affaires du royaume, ils n'ont pas trouvé de quoi le coincer, lui porter préjudice. Alors ils vont réfléchir, la Bible parle de ceux qui sont ingénieux au mal, et ils vont réfléchir, et là à un moment donné, ils vont se dire, mais prenons-le en défaut sur le terrain de sa vie spirituelle. On va faire un décret afin qu'il soit interdit de prier, d'adorer un autre Dieu que le roi Nebuchadnezzar de l'époque. Et la parole de Dieu nous dit que quand Daniel a su que ce décret avait été promulgué, peu lui a importé, il a continué à aller dans sa chambre, d'ouvrir les fenêtres et puis de prier, de louer, peut-être ça s'entendait même de l'extérieur, et il va le faire de tout son cœur, comme d'habitude, avec persévérance, il va servir son Seigneur. Alléluia ! Vous vous rappelez ce que c'est notre premier service ? Je l'ai dit dimanche dernier. Notre premier service en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier le Seigneur. Nous sommes des adorateurs en esprit, en vérité. Vous vous rappelez de notre première responsabilité ? Vous avez oublié, je vous la rappelle. C'est la participation au rassemblement de l'Église. Oui. Et lui, il est là. Et lui, il voulait se rassembler, mais il ne pouvait pas, le pauvre. Et il loue, il prie, il adore, il célèbre. Et là, ils vont rentrer, les méchants, impétueusement dans sa chambre. Ils vont le prendre en flagrant délit de prière et d'adoration. Ils vont l'amener devant le roi. Le roi aimait beaucoup Daniel parce qu'il le considéré comme un homme de Dieu. Il avait une haute estime de lui. Et malheureusement, Daniel va devoir être jeté dans la fosse au lion. Et l'Écriture dit que Daniel, chapitre 6, verset 16, « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Il va prier, il va dire, « Puisse ton Dieu que tu sers, pas quand tout va bien seulement. » Vous savez, des fois, on a mal au ventre, on n'est pas bien, on est fatigué, on a mal à la tête, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Des fois, il ne nous en faut pas beaucoup pour reculer, pour même nous retirer, parce qu'on trouve que c'est trop exigeant, trop difficile. Mais les vrais serviteurs de Dieu, au cœur de l'orage, au cœur de la tempête, même quand tout est contre eux, ils sont encore là. Ils tiennent bon, alléluia. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu les tient, parce que Dieu les soutient, parce que Dieu envoie un ange, parce que de différentes manières, mais un vrai serviteur de Dieu n'est jamais abandonné par son Seigneur, alléluia. Et quelques versets plus loin, au verset 20, Daniel 6, 20, « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Alléluia ! Oui, quand on sert le Seigneur avec persévérance, on peut s'attendre en retour à la fidélité de notre Dieu. Alléluia. La persévérance est indispensable quand on sert le Seigneur, parce qu'il n'y a pas toujours les récompenses escomptées, il n'y a pas toujours la reconnaissance escomptée. Mais savez-vous que ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons seulement, mais c'est pour Dieu d'abord. Et celui qui porte du fruit, nous dit la parole, et qui reçoit la parole avec un cœur honnête et bon, c'est celui qui porte du fruit avec persévérance. Alléluia. John Wesley était un serviteur de Dieu extraordinaire. Sa devise était « Fais tout le bien que tu peux par tous les moyens possibles. Chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. » Il faut persévérer. C'est bien d'avoir commencé la course. C'est bien d'avoir commencé à servir et de l'avoir fait en toute humilité, de tout son cœur et avec une bonne conscience. Mais il faut servir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je vais inviter le pianiste à venir sur le devant. L'apôtre Paul disait... Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui, il te semble que ton service ne porte pas beaucoup de fruits. Mais la Bible dit que celui qui sème avec larmes, il moissonnera, il récoltera avec des champs dans les graisses. Il y a des saisons, il y a des moments où on a l'impression de perdre davantage que ce que l'on gagne. Mais ce sont ceux qui persévèrent dans ce qu'ils croient être juste qui recevront et récolteront le fruit. On ne peut pas mesurer les souffrances de ceux qui servent. On ne peut pas mesurer la charge mentale d'un pasteur. Moi, j'ai tous les jours, frères et sœurs, encore hier, jusqu'à 22h30, un truc comme ça de personnes déprimées qui n'en peut plus. Et je me couche avec ça. Vous voyez, on ne peut pas mesurer, quand on veut servir le Seigneur, tous les combats spirituels, psychiques, psychologiques que nous pouvons vivre, les pressions que nous pouvons subir, les fosses aux lions, quand on sent parfois l'opposition des ténèbres. Et pourtant, Dieu nous dit, continue, ne lâche pas, serre. Des parents, bon, pardonne-moi Joseph, mais les parents de Joseph ont prié toute sa vie. Ils ont persévéré dans la prière pour qu'il se convertisse. Il raconte qu'ils ne lui ont jamais mis la pression, jamais de manipulation. Ils l'ont laissé, ils priaient, mais toute sa vie, ils ont prié. Et ils ne l'ont pas vu se convertir. Mais parce qu'ils ont persévéré jusqu'au bout, ils le retrouveront dans la gloire. Il s'est converti après. Parfois, nous servons, on dit, mais Seigneur, à quoi sert? À quoi bon? Je donne tout mon cœur, j'ai livré ma vie, j'ai donné, j'ai consacré, je me suis investi. La Bible dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais si on meurt à notre ego, à nos intérêts personnels, à nos loisirs, à ce que le monde nous propose, alors, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera du fruit. Alléluia. Veux-tu porter du fruit? Veux-tu encore porter du fruit? Beaucoup de fruits. Alors, bien sûr, tout cela, ce n'est pas par notre force. Aller puiser en nous la persévérance, aller puiser en nous l'humilité. Non, c'est par la force de Dieu, c'est par la nature de Dieu. L'apôtre Pierre dira que nous sommes participants de la nature divine. Nous pouvons être divinement équipés, qualifiés, nous pouvons être révélés comme des vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que quand on nous regarde, qu'on nous observe de près ou de loin, est-ce qu'on peut considérer en nous de l'humilité? L'humilité, c'est pas se cacher dans un coin, dire « oh, je suis nul », c'est pas ça l'humilité. David était très humble et il s'est exposé, il a livré sa vie. L'apôtre Paul n'était pas un timoré, mais il était humble et courageux. La persévérance n'est pas nécessairement non plus synonyme de tristesse. Moi, mon but ce matin, ce n'est pas de vous déprimer. Mon but ce matin, c'est de vous dire la vérité pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Notre modèle ne se trouve pas dans les modèles du monde. Le Seigneur disait, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et Moïse est revenu avec les plans du tabernacle. Nous, notre plan, il est là. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai montré. La persévérance joyeuse. Alléluia. Moi, c'est un privilège de servir Dieu. Comment est-ce que tu réalises ce matin la grâce que tu as de servir le Seigneur? Je termine avec une anecdote d'un homme qui a été persévérant et qui n'a pas vu de ses propres yeux l'accomplissement de son service, mais à cause de sa persévérance. Le royaume de Dieu s'est manifesté au travers de sa vie. Chrétien d'Afrique du Sud, tout en ne dépendant d'aucune société missionnaire, avait reçu dans son cœur l'assurance que Dieu lui commandait d'aller s'établir au cœur de la brousse, dans une tribu qui avait toujours chassé les missionnaires. Aucun n'avait obtenu la permission de s'y établir. Lui-même ne reçut l'autorisation de demeurer qu'à la condition de ne jamais dire un mot de sa religion. La condition était difficile à accepter. Après hésitation, il eut l'assurance qu'il devait rester là. Puisqu'il était interdit de prêcher l'évangile par sa bouche, il le ferait par ses actes. Pendant des années, il vécut au milieu de cette tribu, apportant de l'aide autant qu'il le pouvait à ceux qui en avaient besoin. On commençait à l'estimer. On n'hésitait plus à avoir recours à lui. Il avait conquis sa place, mais il sentait que l'interdiction de prêcher subsistait toujours. Pourtant, il ne se décourageait pas, priant tous les jours pour ces gens, croyant que toute évidence que la permission viendrait. Cependant, il mourut sans l'avoir reçu. Quelque temps plus tard, des missionnaires arrivèrent dans le pays et se mirent à parler de Jésus, de sa vie. Ils furent surpris de ne constater aucune réaction hostile, mais d'entendre les indigènes leur dire « L'homme dont vous parlez, nous l'avons connu. Il a habité plusieurs années dans ce pays. Il nous a fait du bien, mais il est mort et sa tombe est toujours près d'ici. » La foi de ce chrétien, n'avait pas été vaine. Il n'avait pu prêcher Christ, mais il avait montré vivant en lui. Et ces indigènes avaient gardé de lui un souvenir vivant qui maintenant les poussait à écouter l'histoire d'un autre homme qu'on leur dépeignait comme semblable à celui qui avait vécu parmi eux. Il y eut des conversions et un magnifique réveil. Un exemple encourageant, frères et sœurs. C'est vrai, quand on persévère et qu'on est fidèle dans les petites choses, on ne sera pas tous des missionnaires en Afrique. On ne sera pas tous des prédicateurs de feu. Mais on ne sera pas mesuré encore une fois. Notre grandeur n'est pas le fait de notre position. Notre grandeur est le fait de notre service auprès des frères et des sœurs que le Seigneur nous aura confiés. C'est ça que Dieu nous demande. Et je crois que ce qu'il veut trouver en nous, c'est de l'humilité et de la persévérance. Alors, peut-être ton service est difficile. De toute manière, servir Dieu, Paul parlera des stigmates qu'il avait sur son corps. On se prend des coups, on se fait maltraiter parfois, mais c'est le lot du service pour le Seigneur. Mais quand on sait pourquoi on le fait, pour qui on le fait et qu'on se laisse renouveler dans la communion avec Dieu, eh bien notre persévérance devient joyeuse. La gueule des lions est fermée, la victoire nous est accordée et le témoignage de l'Évangile et de la gloire de Dieu est rendu. Moi, je crois que c'est possible, alléluia! On peut acclamer Jésus, amen. On va se mettre debout quelques instants et on va dire, Seigneur, apprends-moi ce matin à être. Parfois, il y a des limites, comme cet homme qui ne pouvait même ouvrir la bouche pour parler de toi. Mais il n'a peut-être pas pu parler de toi, mais il a pu préparer le terrain comme Jean-Baptiste l'a préparé pour Jésus. Il a été un serviteur fidèle, un serviteur de l'ombre. Mais Seigneur, tu as utilisé sa vie comme un instrument de bénédiction. Seigneur, je prie afin que ce matin, tu trouves en chacun et chacune d'entre nous de l'humilité et de la persévérance. De l'humilité et de la persévérance. Que vraiment ta grâce se manifeste, alléluia, au milieu de nous par le Saint-Esprit. Oui, Jésus, que ton nom soit glorifié, Père, pour ta fidélité et ta grâce, alléluia, amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia.